explorer la franc-maçonnerie n'est pas une mince affaire. Se repérer dans ces notions de loge, d'obédience, de rituel, demande de consulter beaucoup de documents, de se confronter à l'histoire politique, nationale, religieuse. André Kervella est l'un de ces auteurs qui ont le goût des papiers d'archives qui décryptent les patentes fondatrices. Sur le site de la Bibliothèque nationale de France sont répertoriées 19 œuvres textuelles d'André Kervella. La dernière citée date de 2019, le dieu des francs-maçons. Il manque donc celle dont nous allons parler aujourd'hui, Hunt en lumière, la stricte observance templière décodée, publiée aux éditions de l'Attarante à Aubagne. Bonjour André Kervella.
Bonjour.
Alors si j'en crois la BNF, votre première œuvre sur la maçonnerie date de 1999, avec la maçonnerie écossaise entre 1720 et 1755, 20 ans d'immersion dans la maçonnerie, on commence à connaître le sujet, André Kervella.
Oui, cela dit, la BNF ne recense pas tout, hein, mais peu importe. J'en avais déjà écrit avant, mais ça n'a pas d'importance de faire, je dirais, ces correctifs, hein, concernant mon catalogue, si j'ose dire. Le fait est que je m'intéresse à la franc-maçonnerie effectivement depuis plus de 20 ans, hein, ce qui est certain, et je dirais ma méthode est d'aller aux documents, aux archives, c'est-à-dire que sans contester bien entendu les œuvres ou les ouvrages qui ont été écrits avant que j'intervienne en quelque sorte dans le microcosme des historiens de la franc-maçonnerie. D'autres auteurs, bien entendu, ont écrit des ouvrages fort intéressants, mais mon parti pris, quant à moi, c'est plutôt d'aller aux documents, de retrouver les sources en quelque sorte et de me faire mon opinion. Je ne conteste pas, bien entendu, l'opinion des autres, mais il faut admettre qu'on peut en avoir une autre soi-même. Et que donc, la meilleure façon, je dirais, d'être bien éclairé sur l'histoire de la franc-maçonnerie, c'est effectivement quand les documents peuvent être retrouvés, de les consulter, de les comparer, de les confronter. Voilà, donc ça, c'est ma démarche.
Voilà, alors se reporter aux documents, est-ce que c'est pour vous un gage de sérieux, de véracité de ce qu'on peut dire sur la maçonnerie? Parce qu'il semblerait en effet que parfois on dise on raconte des histoires sur la maçonnerie qui ne sont pas toujours vérifiées.
Ah, tout à fait, oui, le document, comme je dirais que c'est la démarche de tout historien, qu'il soit spécialiste ou pas de la franc-maçonnerie, ça importe peu, en fait. L'historien, en général, lorsqu'il a un objet, il va s'attacher à retrouver les traces des faits dont il essaye de mettre, une mise en perspective. Donc, la franc-maçonnerie n'est pas un objet exceptionnel, c'est pas un objet à part, c'est un objet comme les autres. Donc, il faut s'attacher effectivement à aller aux documents. Alors, l'avantage, bien entendu, d'aller aux documents, ça évite ce qu'on appelle la pratique compilatoire, puisque beaucoup d'auteurs de la franc-maçonnerie ne font que compiler les ouvrages des autres. Et à partir de là, il y a des déperditions de sens successives, on ajoute des histoires, on fait du mythe, et donc on s'éloigne finalement de la factualité. La factualité, c'est ce que les documents rapportent. Donc, il faut procéder par là.
Et c'est justement ce que nous allons voir avec votre dernier livre, donc « Hunt en lumière, la stricte observance templière décodée ». Alors, cette œuvre fait suite à une autre parue en 2016, où vous vous étiez intéressé au baron, enfin le titre en est, « Le baron de Hunt et la stricte observance templière avec le sceau jacobite ». Alors, oui. Quelles sont les différences entre ces deux œuvres? Pourquoi est-ce que vous avez eu besoin de la compléter finalement, si c'est bien de complément dont il s'agit?
Oui, c'est un complément. Le premier ouvrage avait plutôt pour objectif de resituer le baron de Hunt dans son contexte d'époque, de voir comment il avait évolué, à partir de quelles sources, quelle avait été aussi son influence. Et en tout cas, il s'agissait de mettre en évidence un thème majeur de la stricte observance, ce thème étant relatif à l'influence des jacobites. Donc, j'étais dans les généralités. Et en écrivant ce livre, bien entendu, il y a un aspect qui devait apparaître, transparaître, c'est celui de la fameuse patente, justement, qui est à l'origine du travail de Hunt. Cette fameuse patente, quand j'ai écrit le premier livre, je ne l'avais pas encore déchiffrée. C'est-à-dire que, tout comme les prédécesseurs avant moi n'avaient pas réussi à la décrypter, elle est si énigmatique que c'est extrêmement difficile de la décrypter. Donc, quand j'ai écrit ce premier livre, j'en étais encore à tourner autour. Je ne savais pas ce qu'il y avait comme contenu. Je soupçonnais, j'avais une idée, mais il fallait en avoir le cœur net. Donc, après avoir écrit ce premier livre, je dirais de cadrage général, je me suis dit, il faut quand même que je m'attaque à la patente, que j'essaye de voir ce qu'il y a dedans. Et si ce qu'il y a dedans apporte des éléments nouveaux d'interprétation, il faudra en faire part au lecteur. Et c'est ce que j'ai fait. Ça m'a pris du temps. Ça m'a pris du temps avec parfois de l'agacement, puisque quand on lit sur Internet notamment ce qui est dit à propos de cette fameuse patente, on s'aperçoit que finalement, il y a énormément, mais alors énormément, de bêtises, parce que comme on ne connaît pas le contenu, on fantasme. Donc, sur Internet, il y a toute une série de fantasmes, et je voulais savoir ce qui était plutôt de l'ordre du réel.
Donc, André Kervella, vous êtes donc le premier à avoir déchiffré, traduit, faire ce travail de calligraphie et de décryptage de ce codage, on va dire, de ce texte qui date de 1751. Il n'est pas si ancien pourtant. Pourquoi a-t-il été si difficile à comprendre, à décoder ?
Il est difficile à décoder au sens où les pratiques jacobites, et j'insiste là-dessus, sont des pratiques qui, effectivement, au XVIIIe siècle, les jacobites, ce sont, on le sait, des vaincus, c'est-à-dire des personnes qui ont été vaincues au moment de la révolution, dite la glorieuse révolution en Grande-Bretagne. Le roi Jacques II avait le pouvoir, il a été chassé en 1688, ils sont venus se réfugier sur le continent, et notamment en France. Leur objectif était bien entendu de reconquérir le trône. Ils pensaient le faire vite, ils n'ont pas pu le faire vite, ils ont fait plusieurs tentatives. Et bien, pour communiquer entre eux, pour se transmettre des informations politiques, ils utilisaient déjà des formules de cryptage. Je dirais, comme tout l'univers diplomatique du monde à cette époque-là, le cryptage c'est très ancien, c'est, même au temps de César, on cryptait déjà, on chiffrait les lettres pour que s'il y avait une interception par l'ennemi, eh bien, l'ennemi ne puisse pas déchiffrer les intentions tactiques ou stratégiques des combattants. Donc, au XVIIIe siècle, il y a une pratique chez les jacobites qui consiste à chiffrer, effectivement, leurs courriers sensibles. Cette pratique, on l'observe aussi en franc-maçonnerie, puisque l'alphabet maçonnique, indépendamment des jacobites, est utilisé. Mais pour les jacobites, bien entendu, il ne s'agissait pas d'utiliser, je dirais, l'alphabet maçonnique ordinaire, puisque, justement, celui-là est trop facile à comprendre. C'est même un jeu d'enfant. Il s'agissait d'inventer un cryptage qui, justement, ne puisse pas être cassé par les ennemis. En l'occurrence, les Hanovriens. C'est les Hanovriens qui sont, je dirais, incarnés d'une certaine manière par la philosophie, on pourrait dire la franc-maçonnerie ou la théorie andersonienne. Donc, un homme parmi les jacobites qui avait une responsabilité éminente parmi eux, aussi bien au point de vue politique que du point de vue maçonnique, cet homme-là s'est dit, je vais de toute façon m'inventer un alphabet, une pratique qui ne puisse être intelligible que par ceux auxquels j'aurais donné les clés, et à ce moment-là, je pourrais communiquer sans redouter des interceptions qui puissent nuire à ceux avec lesquels je communique. Voilà, donc il s'agissait finalement de comprendre qu'il y a une culture générale du chiffrage. À l'intérieur de la culture générale du chiffrage, il y a le cas particulier qui est celui justement de Comte Marichal, puisque c'est de lui qu'il s'agit, George Cage Marichal. Et donc, à partir de là, puisqu'il n'y a aucun modèle extérieur à la patente, il faut déchiffrer la patente au travers des outils qui sont offerts par la connaissance, d'une part, de la biographie du comte Marichal et aussi par, je dirais, une analyse interne des procédures de chiffrage. Et il y en a trois.
En effet, ce sont les chapitres 2 et 3 de votre livre dans lesquels vous en parlez, hein, des chiffres et des lettres et le per speculum enigmate. Et là, vous venez de dire qu'il y a en fait deux recherches que vous menez, à la fois ce codage et ce décryptage, et vous avez aussi un long chapitre sur l'auteur de cette patente adressée à Hunt, mais il n'en est que le destinataire, si je puis dire. Et vous passez aussi un long temps, notamment dans le chapitre suivant, la galerie des maréchaux, à chercher l'identité de l'auteur.
Oui, oui, tout à fait. C'est-à-dire que plusieurs hypothèses ont été émises du temps de Hunt. C'est-à-dire que Hunt parlait d'un maréchal. Alors, en allemand, Marschall, maréchal, et en français, maréchal. Il va de soi que les contemporains de Hunt se sont fixés sur ce mot-là, Marschall, et ils se sont dit, essayons de trouver des maréchaux, ou des gens qui ont ce nom-là, Marschall, essayons de trouver ça dans l'univers de l'Allemagne de l'époque, hein, et pour savoir finalement quel était ce personnage énigmatique qui avait pu transmettre à Hunt cette fameuse patente. Donc, il y a eu des auteurs qui ont émis l'hypothèse sur un certain maréchal von Bilberstein, sur d'autres maréchaux, etc. Et c'était légitime, bien entendu. Mais il s'agissait d'adopter une autre démarche, c'est-à-dire que puisque nous avions la patente originale, il s'agissait de voir si éventuellement nous pouvions déceler l'auteur au travers de la manière de calligraphier cette patente, de l'écrire. Est-ce que l'écriture de la patente peut se retrouver, hein, les formes, le style, enfin bref, tout ce qui peut identifier un auteur au travers de son écriture, est-ce qu'on peut retrouver d'autres textes de la même époque, je dirais écrits en langue profane ou écrits d'une autre manière, et en tout cas n'étant pas maçonnique, est-ce qu'on peut trouver donc des archives qui révèlent cette écriture analogue à celle de la patente? Si effectivement on trouve des analogies troublantes, et plus que troublantes, entre deux séries de documents, la patente d'un côté, et même d'autres patentes, puisqu'il y a d'autres patentes de l'époque qui sont également cryptées. Et puis, les documents profanes, si à un certain moment on observe une convergence ou une coïncidence, on peut se dire, il est possible que l'auteur du document profane soit aussi l'auteur du document maçonnique. Alors, l'avantage, quand on a cette démarche, c'est qu'on s'aperçoit, puisque je pratique beaucoup les archives jacobites de l'ensemble du XVIIIe siècle, eh bien, quand on est habitué effectivement aux documents politiques, profanes ou autres, à un certain moment, on est frappé, justement, quand on lit la patente, on est frappé comme ça par effectivement une analogie. Et quand on creuse l'analogie, on se dit, mais faisons des correspondances terme à terme, lettre à lettre, et on s'aperçoit que, comme par hasard, les documents profanes qui ressortent du grand lot d'archives sont des documents signés Maréchal. Ils signent Maréchal, hein. Ils ne signent pas George Cates contre Maréchal, ils signent Maréchal. Et à ce moment-là, eh bien justement, j'ai approfondi, je dirais, la lecture comparée, et j'en suis arrivé à la déduction que ça ne pouvait être que le même homme. Ça, c'est, je dirais, l'angle calligraphique, purement matériel. Ensuite, il s'agit de voir si cet auteur-là, Maréchal, peut être retenu effectivement en raison, je dirais, de sa culture, en raison son ascendance, en raison de beaucoup d'autres critères qui se découvrent au fur et à mesure de la recherche. Alors, première chose, je découvre que Maréchal est effectivement habitué à faire des rébus, à faire des énigmes. Ah oui. Et ça apparaît dans la correspondance profane, c'est-à-dire que les interlocuteurs ou les correspondants de Maréchal disent à certains moments, tiens, il nous a envoyé une lettre, on n'arrive pas à la déchiffrer, c'est bizarre, qu'est-ce qu'il a voulu nous dire? Alors c'est un jeu pour Maréchal. En fait, il essaye de mettre ses correspondants dans une sorte de position ludique pour qu'ils découvrent par eux-mêmes ce qu'il a voulu dire avec des signes particuliers, kabbalistiques ou autres, dans ses propres lettres. Donc, on a déjà ça, un témoignage patent, je dirais, avoué comme tel. Ensuite, on s'aperçoit qu'il a reçu effectivement une éducation où il connaît fort bien le latin, fort bien, je dirais, ce qu'on appelle les humanités à l'époque. Et donc, il est apte, il est capable, effectivement, de faire un texte latin, de l'écrire de manière la plus, je dirais, élégante possible, et éventuellement de la traduire, de chiffrer ce texte. C'est possible. Autre argument, puisque la stricte observance templière se renvoie aux aspects liés, je dirais par définition, aux templiers, eh bien, est-ce que dans la famille de Maréchal, de la famille Kate, est-ce qu'on peut trouver effectivement des personnages qui ont eu peu ou prou des liens avec les Templiers? Ben oui, la réponse est oui. L'un des ancêtres de Maréchal est supposé, puisque là aussi il faut faire quand même aussi, pour avoir un peu de recul par rapport aux archives les plus anciennes, est-ce qu'il a réellement été Templier? Je ne le pense pas. Mais est-ce qu'il a été en contact avec les Templiers? Oui. Est-ce que dans la famille Maréchal, on trouve quelqu'un qui s'est intéressé aux croisés? Oui, on trouve. Donc, effectivement, la culture familiale de Maréchal est une culture sensible à la tradition templière, à la tradition des croisés. Donc, c'est encore un élément supplémentaire d'information qui, je dirais, autorise à considérer que Maréchal s'est adossé ou s'est appuyé sur une culture familiale augmentée par ses propres lectures pour effectivement avoir une affinité particulière pour le templarisme. Donc, ces éléments-là cumulés, son écriture, son instruction reçue en tant que latiniste, si j'ose dire, il connaissait très bien le français aussi d'ailleurs, son passé familial, tout cela converge pour effectivement garantir que c'est lui l'auteur de la patente.
André Kervella, je vous remercie pour cette présentation du travail de décryptage de la patente de Hunt. Nous nous retrouvons dans une deuxième émission pour explorer les particularités de la maçonnerie jacobite, toujours à partir de la lecture de votre livre « Hunt en lumière », La stricte observance templière décodée qui paraît aux éditions de la Tarente à Aubagne.